monde spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 18 novembre 2015, il est 14h03 et c'est l'émission numéro 80, la 80e. Gérald, encore 20 et nous arriverons à 100 émissions. Christophe Rollin au micro, Gérald est donc présent comme tous les mercredis et puis nous avons un invité aujourd'hui comme tous les mercredis également, Jean Imhoff, peintre, qui va parler avec nous pendant toute cette émission de son activité et notamment de cette belle manifestation demain, enfin je ne sais pas comment nommer cela, une opération atelier porte ouverte de 16h à 20h voire 22h je crois au 20 de la rue Richand, c'est sur le plateau de la Croix-Rousse. Voilà, donc il est avec nous pour parler jusqu'à 15h comme tous les mercredis, il va parler de son activité, puis Gérald fera peut-être quelques autres annonces, nous verrons ça. L'émission comme toujours, vous l'écoutez sur Radio Canu, c'est-à-dire le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien radiocanu.org, et on va commencer avec de la musique comme tous les mercredis et de la peinture. De la peinture par Bobby Lapointe, la peinture à l'huile, extrait de l'album « Comprends qui peut ». Nous demanderons à Jean pourquoi il a décidé. Ouais, c'est peut-être assez clair quand même. Voilà, auditeurs, vous êtes très bien en notre compagnie et restez donc jusqu'à 15h. Voilà.
La peinture en l'huile, c'est bien difficile en huile, mais c'est bien plus beau. Dali, daladi, adadi, que la peinture à l'eau. Ah, à l'eau, ah. Rap, petit péta, petit péto. Rap, petit péta, petit péto. Carabide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable. Elle est admirable, on en mangerait. Un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. C'est un jeu face à Hawaïl. On dit de verre en Hawaïl. Et puis on termine Dali, daladi, adadi, par plaisanterie fine. À l'eau de sels, rap petit péta, petit péto. Rap petit péta, petit péto. Carabide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable. Elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Les automobiles dans les rues des Fawaïles. C'est moins rigolo, dali, daladi, adadi, que les pédalos à l'eau. Allo, rap petit péta, petit péto. Rap petit péta, petit péto. Carabide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable. Est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Faut pas se faire de bawaïle, c'est bien inutawaïle. Ça rend morose, dali, daladi, adadi, vaut mieux se faire autre chose. Allo, rap petit péta, petit péto. Rap petit péta, petit péto. Carabide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable. Est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit, petit peu. 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 En l'huile.
Et donc, comprends qui peut. C'était Bobby Lapointe pour la peinture à l'huile. Jean Imhoff est avec nous puisque c'est lui qui a décidé de. Enfin, décidé, c'est lui qui a fait cette suggestion musicale. Bah, ça pourrait presque faire la matière générale d'une première question. Hein. On pourrait demander à Jean pourquoi avoir écouté la peinture à l'huile, mais c'est ce que j'avais indiqué. C'est peut-être assez clair quand même, non ?
Est-ce qu'il ne peint qu'à l'huile d'ailleurs ?
Bonjour Jean, oui. on pourrait commencer.
Ben, bonjour,
je
ne
suis pas
oui.
sûr parce qu'il y a des fois des matériaux un peu bizarres, ouais. Ou même des objets même collés. J'ai cru repérer sur votre site.
Ouais, tout à fait, ouais. Ben, c'est-à-dire, la première question, donc Bobby Lapointe, ben, j'adore, hein, c'est pour ça que j'ai... Et puis je trouve qu'en regardant la pochette, j'ai vu cette chanson sur la peinture, et je trouvais que c'était tout à fait approprié à l'émission, et comme introduction, je trouve que c'était judicieux de le mettre.
Donc, puisque vous êtes peintre, donc.
Voilà, oui, je suis peintre, oui. Et donc, pour ma part.
Artiste peintre, hein. Ça n'est pas peintre en bâtiment, ben, hein, il faut quand même.
Voilà, ouais, mais, enfin, moi je me dis peintre parce que artiste, c'est encore une autre qualification que. Ben, j'ai difficulté à me dire artiste. Je fais de la peinture et j'ai l'impression que c'est peut-être les gens qui voient ma peinture qui décident si je suis un artiste ou pas. Je trouve ça un peu. Peut-être prétentieux un petit peu de se dire artiste peintre.
Immodeste,
hein, ouais. Je suis. Ouais, peut-être. Voilà. Donc je fais de la peinture sur des. Si vous voulez, pas sur des. Sur des murs. Ouais, je peins sur des supports qui vont être acquis par des gens et qui vont les mettre chez eux. Donc. Et on parlait donc de peinture à l'huile. Moi, je peins. À la peinture à l'eau, hein, c'est pas vraiment de la peinture à l'eau, c'est un liant qui est hydrosoluble. C'est ce qu'on appelle en général des acryliques. Mais moi, je peins avec des pigments que je mélange avec un liant hydrosoluble. Voilà, donc c'est.
Mais vos pigments, vous broyez vos pigments vous-même à l'ancienne?
Ben, non, moi j'ai toujours vu broyer les pigments. Moi, j'achète des pigments en poudre. J'ai pas eu besoin de les broyer, hein. Je mélange ça avec mon liant et puis ça fait quelque chose, une pâte qui me convient, hein. Suivant la quantité de liant, comme j'explique souvent, ben je vais avoir quelque chose de très pâteux, et si je mets beaucoup de liant et peu de pigments, je vais avoir quelque chose de très liquide. Et l'intérêt des pigments et des liants, c'est qu'on peut avoir des pâtes plus ou moins épaisses, hein, donc et qui tiennent, parce que si vous prenez, c'est un peu technique, hein, mais c'est assez intéressant quand même.
On parle du niveau technique, on parlera du niveau plastique et iconique ensuite.
Voilà, oui, on peut parler de ce que vous voulez. Oui. Non, mais c'est assez important parce que moi, je trouve que les tubes de peinture qu'on a dans le commerce, c'est toujours pareil. Ça me fait penser un peu à du dentifrice. Ça a toujours la même consistance. Hein, ça sort comme ça. Et tandis que quand on mélange ces pigments, d'abord si on les mélange peu, on va garder des espèces de gratons dedans, du pigment
la qui matière, est,
la matière,
mal déliée.
Mais le pigment qui s'est pas dilué, si
on
vous
dirait
voulez.
Des grumeaux. Bah
voilà des grumeaux. Ouais, donc
comme
ça,
dans la purée.
Voilà,
la pâte à crêpes.
Et quand on le met sur une surface verticale, ça va pas tomber, ça va rester et c'est pas possible avec les autres. Les autres, sinon ça coule. Et c'est pas, ça me convient pas. Voilà, c'est l'intérêt parce que on a un métier physique manuel. Moi, je m'imagine pas travailler. Je vois des gens, ils font de la peinture sur ordinateur. Moi, ça me dépasse. Il faut qu'on touche le matériel.
C'est un vrai peintre qui parle, oui.
Et oui, non, mais c'est pour moi, c'est quelque chose de physique. Déjà, commencer par toucher. Maintenant, je suis un peu moins sale qu'avant. C'était vraiment.
Ce qu'on appelle le matiérisme, hein, un courant pictural. Oui, qu'on appelle ça. Le matiérisme,
ouais,
la lignée de ta pièce, Barcello et d'autres.
C'est magnifique, ça. Justement, là.
Faut trier.
Faut trier, c'est exactement ça. C'est vraiment des repères. Ouais. Faut trier l'épaisseur de la matière. C'est la matière qui fait le tableau. Et moi, je joue à la fois sur la matière, l'épaisseur. Et j'adore toucher les matériaux. On ne peut pas faire ça avec des gants, par exemple. Hein.
Bon, alors Bobby Lapointe nous a permis de rentrer dans le cœur de la matière picturale, qui est fondamental pour un peintre, comme vous venez très bien de le dire. On y reviendra après. Moi, j'aimerais d'abord qu'un petit peu avant, vous parliez d'abord de vous, peut-être votre parcours d'artiste, vos influences, on a commencé à en parler. Mm-hmm. Votre origine, peut-être, vous avez un nom quand même un peu bizarre, je trouve. Mm-hmm. Non, c'était une blague, bien sûr. Votre âge, peut-être, votre formation, etc.
Beaucoup de choses, hein, Gérald, sont indiquées sur le site. Nous renvoyons au site.
L'intimité, même.
C'est indiqué, hein, vous le dites clairement sur le site. Né à fin des années 40, et puis
né à Toulon. D'accord, alors il n'y a plus rien à cacher.
Né à Toulon, mais c'est accidentel.
Voilà, je suis né presque accidentellement. Ouais. Pour moi, je suis né à Alger, ouais, parce que enfin, je suis né sur le papier, je suis né à Toulon. Mm-hmm. Mais c'était pendant les vacances. Donc ma mère a accouché là-bas parce qu'elle était toulonnaise. Mm-hmm. Elle était venue voir ses parents et puis après, ben dès que j'ai eu quelques jours, je sais pas exactement et à quel âge je suis reparti, mais j'avais une semaine, j'en sais rien, j'étais tout petit. Donc pour moi, je suis né à Alger, j'ai vécu à Alger jusqu'à l'âge de 13-14 ans.
Ah, c'est important, ouais. Il me semble, la vidéo, je mettrai le lien sur le site, cette vidéo très intéressante, une sorte de documentaire, interview de vous-même réalisé donc à cet atelier rue Richamps, puisque je le rappelle, atelier atelier que vous ouvrez demain jeudi 19 novembre entre 16h et 20h, 22h, je crois.
Il n'y a pas d'heure, quand il n'y aura plus personne, on va fermer.
Et donc cet atelier, dans la vidéo, il apparaît, enfin vraiment, moi j'étais frappé, c'est bien entendu sûrement normal, mais j'étais frappé par la clarté, par la luminosité qui est présente. Et donc, enfin, est-ce que ça fait la matière à une question ? Alger, la lumière, c'est quelque chose qui a pu dans vos premières années avoir une...
Alger la Blanche, hein, c'est une...
Ah, c'est Casablanca aussi dont on parle.
Mais Casablanca, mais là
on change de pays.
L'étymologie du nom. Mais on parle d'Alger la Blanche, ouais, c'est ça, ouais, c'est une ville très... très lumineuse, on l'imagine toujours très lumineuse, oui. Mais j'avais jamais fait le rapprochement. Enfin, j'ai trouvé il n'y a pas de hasard, on dirait, mais j'ai trouvé un atelier qui se libérait et il se trouve qu'il était lumineux. Enfin, il vaut mieux pour un atelier.
Que travailler à la lampe électrique.
Ah bah, oui, quand même.
Mais cette
clarté, êtes-vous allé la retrouver ? Êtes-vous retourné à Alger ces dernières années ou bien
Vous savez, avec tout ce qui se passe, on est un peu inquiet et c'est un peu mon rêve. Moi, mon rêve, ce serait d'aller en Kabylie. Au bord de la mer, et puis...
Vous avez dû fuir...
Mon gros truc, c'est pas un fantasme, mais mon truc, c'est partir avec un camping-car le long de la côte Kabyle, voilà, et puis faire de la pêche sous-marine.
Et du paysage sur le motif, pourquoi pas ?
Je photographie psychiquement, si vous voulez, enfin, sans appareil, et justement, je prends pas d'appareil pour emmagasiner tout ce que je vois. Et après, je pense que ça se retranscrit, hein, mais il n'y a pas de... Le motif, moi, je ne suis pas d'abord figuratif. Alors, et l'influence, elle n'est pas directe, elle est indirecte. Je pense que c'est un cumul de sensations, d'émotions, qui fait qu'après, ça ressort sous une forme qu'on n'arrive pas franchement à codifier. On ne sait pas ce qui se passe. Hein.
Mais on reparlera de cette dimension figurative dans votre travail qui existe, à mon avis, mais peut-être inconsciente, et elle y est, c'est évident, je trouve. Mais justement, c'est la tension entre l'abstraction et la figuration qui est intéressante dans votre travail. Et la matière, la couleur, la transparence, etc. Et pour en finir avec votre parcours, alors vous avez découvert la peinture par quel biais, à quel âge ? Le choc esthétique.
J'ai formulé la question là, Gérald. J'étais en train de me dire, puisque, enfin voilà, vous nous avez parlé de votre naissance, cette naissance à Alger, et donc quand êtes-vous né à la peinture ? Est-ce en arrivant en France dans les années 60, ou peut-être justement, est-ce en Algérie déjà, à Alger, qu'il y a un truc qui s'est produit avec...
Quand j'étais petit à Alger, c'est vrai que j'aimais bien j'allais au musée tout seul. Et j'adorais, j'allais voir, il y avait des tableaux de... Ça s'appelle le musée du Bardot, je crois. C'était dans une petite rue qui montait, il y avait un truc. Il y avait des odeurs, j'y allais, j'étais gamin, c'est vrai que... Et je repensais pas ça, d'ailleurs.
Le Bardot, c'est pas en Tunisie, plutôt ?
À Tunis, il y a le musée du Bardot, mais c'est peut-être un autre musée.
Ah non, mais il y avait un nom, ou le Prado ou le Bardot, mais le Prado, non. Le Prado, mais il peut y avoir deux noms.
Oui, bien sûr. Ah, le Prado, peut-être qu'il y a un musée du Bardot.
Il faudra que je vérifie. Non, mais là, vous me faites remonter dans des souvenirs que je n'avais pas évoqués. C'est pour ça que je ne suis pas... Il n'y a aucune préparation dans ce que je fais. C'est pour ça que...
Sans filer l'émission, c'est comme ça que ça marche tous les mercredis.
Donc, c'était un musée où il y avait des odeurs exceptionnelles. Et puis, je me souviens, il y avait des vitrines avec des bijoux berbères et puis des vêtements aussi. Et puis des tableaux. Et maintenant, je me souviens que j'allais, vous voyez, donc c'est peut-être là que ça a commencé. Et je repensais aussi, une fois, on était allé en Hollande avec mes parents. Mes frères et sœurs, ils avaient pris des reproductions de tableaux classiques. Et moi, j'avais rapporté un truc, c'était un truc de Braque, je crois. Mm-hmm. Tout le monde disait, mais pourquoi t'as pris ça?
Étonnant.
Ouais, c'était étonnant.
Vous étiez très jeune.
Ouais.
Vous aviez 15 ans, 14 ans?
Ouais, j'avais 14 ans, 15 ans, ouais. Mais j'ai pas été imprégné, parce que mes parents, ils étaient pas du tout versés dans la peinture. Hein, et... Mais je sais pas comment ça s'est fait. Hein. J'ai toujours aimé la peinture et puis tout le reste. Hein. Enfin, tout ce qui est art, curiosité. Hein. Et j'adore moi les curiosités autant que la peinture, hein, tout ce qui me semble un peu curiosité, ça fait un éventail extrême, ça part du boulon un peu rouillé, pas trop rouillé, jusque
le mur décrépit.
Voilà, ouais, ça, ben, ça c'est le grand classique. Hein. Mmh. Comme parce que ça me rappelle le mur décrépit. Si vous permettez, c'est une anecdote de Soulages qui justement parle de l'art abstrait, qui définit très bien l'art abstrait. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote.
Non.
Il avait en face de chez lui un mur et sur ce mur il y avait une grosse tache noire. Et cette tache noire, elle lui plaisait énormément.
Ah bah oui. Alors quand on parle de Pierre Soulages, oui.
Voilà, oui, oui. Non, mais il était tout petit. Il était, je sais pas, il avait 4-5 ans, 6 ans. Mm-hmm. Et on savait pas, c'était une éclaboussure de goudron, de bitume déjà, un coup de balai du cantonnier. Mm-hmm. Et un jour, cette tache, il la regarde. C'était une tache qui ressemblait à un chien ou un animal quelconque. Mm-hmm. Et il a été déçu. Hein. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont enlevé ma tache. Donc il a dû descendre dans la rue, il est allé jusque voir sa tâche de près, il a vu que c'était bien sa tâche à lui, et il est reparti quand même rassuré. Et là c'est vraiment ça, c'est pour moi la définition de l'art abstrait, c'est une tâche qui vous plaît, c'est pas quelque chose qui ressemble... Et dans les anfractuosités des murs, moi c'est ça, moi je dis souvent, je suis un peintre des anfractuosités, moi j'ai l'impression qu'on va gratter et qu'on trouve... peut-être pour ça que je gratte la peinture, hein, parce que une fois que c'est fini, j'aime bien gratter, on voit des trucs dessous. Et...
Gratter à vif dans la peinture fraîche, gratter, graver, enlever des couches, en remettre.
Voilà, oui. Et on peut tout faire, hein, c'est ça l'intérêt. Alors, ça peut être à frais, ça peut être à...
C'est quand on s'arrête pour un peintre, il me semble. Quand on décide que le tableau est terminé, après toutes ces opérations variées, de recouvrement, d'effacement, d'empattement...
Quand pensez-vous qu'un tableau est terminé? C'est souvent ce qu'on me demande.
Eh oui.
Work in progress.
Et vous me le demandez pas?
Si, justement, c'est la vraie question. Il y en a pour cette raison, sont passés à la peinture. McLaren, notamment, disait qu'il n'arrivait jamais à finir un tableau et du coup, il a fait ce processus infini. Bah, tous ces films d'animation expérimentaux au Canada qui ont apporté des très très bons films d'animation. Il était peintre, il a arrêté la peinture parce qu'il savait jamais quand s'arrêter, en fait.
Ah ouais, d'accord.
Et on arrive, bien sûr, d'équilibre et puis de gâcher le tableau.
Moi, je veux dire, j'ai pas de secret, j'ai pas de formule, j'ai pas de... Mais moi, je le sais parce que quand un tableau est fini, bah, ça m'apporte une émotion. Et je le ressens à ce moment-là. Il y a quelque chose qui se passe et je dis, ça y est, c'est fini, ça me transporte, il y a une jubilation, un truc comme ça qui fait que j'ai trouvé ce que je cherchais. Je savais pas ce que je cherchais,
mais une fois que c'est une aventure.
Là ça me fait vraiment ça, là, je m'en rends compte, c'est pour ça souvent je sais qu'un tableau était réussi parce que je suis passé par cette étape. Hein. Et parfois il y a des tableaux que je travaille tellement longtemps que j'ai pas ce moment et là je sais pas bien, ouais. Souvent, il faut que je demande à quelqu'un.
Ah, mais il faut se méfier parce que quand on demande à trop de gens, on ne sait plus quoi faire. Il faut être très bon conseil.
Eureka doit donc s'écrier Jean Imhoff assez régulièrement au vin de la rue Richand. Eureka, j'ai trouvé. C'est intéressant, c'est un trouveur.
Ce qu'il ne cherchait pas d'ailleurs.
Voilà, on parle de chercheurs. Il y a également des trouveurs.
Ben, c'est comme Picasso.
Qui ne cherche pas mais qui trouve.
Voilà, moi je trouvais ça.
Soi-disant.
Moi c'est pareil, je trouvais ça prétentieux. Il ne cherche pas, il n'a même pas besoin de chercher, il trouve tout de suite.
C'est un peu prétentieux.
Non, c'était pas ça. Ouais, c'est
mais non, ça veut plus dire que le tableau.
Et Soulage, lui, dit je sais que j'ai trouvé. Je sais que j'ai trouvé ce que je cherchais quand je l'ai trouvé, en fait. Mm-hmm. Et moi, c'est un peu comme ça. Enfin, je vais pas me comparer ni à Soulage.
Non, mais ce sont des grandes figures.
Voilà. Il faut souvent asseoir ce qu'on dit sur des références qui font.
Qui font sens.
Ouais, c'est ça, ouais.
Si les auditeurs le connaissent.
Actuellement, c'est vrai que Soulages est une bonne référence.
nous parlons. Enfin, voilà. Donc, il y a des mots, mais je renvoie encore à cette vidéo que je mettrai en lien sur le site je crois que c'est sur Vimeo, me semble-t-il. Mmh. Une interview réalisée par, j'ai perdu le nom de.
Ça s'appelle La girafe au long cou.
Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Eh bien, on vous voit gratter. On voit que, on constate, enfin, du moins, on se rend effectivement compte de ce travail que vous faites. Mais moi, je voulais revenir à autre chose. Vous parliez à l'instant, vous évoquiez les anfractuosités des murs. Vous parliez, enfin, de différentes choses. Et je sais pas pourquoi je revenais à cette idée de vous accumuler. Enfin, comment dire, il y a un travail qui est également fait sur une matière, pas forcément sur vos tableaux, mais un travail de, comment appeler ça, le travail en amont, c'est ça? Enfin, du moins, il y a une recherche, enfin pas tant une recherche, mais il y a une exploitation de d'objets, c'est ça, de votre pas tant quotidien, mais des choses que vous avez retrouvées. Vous montrez un poupon, vous montrez une petite figurine, vous avez également en main une carte postale, ah oui, alors qui doit dater d'une centaine d'années. Enfin, ouais, ouais. Il y a tout un tas de choses. Et là, vous me parliez même tout à l'heure d'une boîte d'allumettes. Vous trouvez où tout ça?
On en trouve de partout. Il suffit de regarder.
Ah oui, non, mais attention, cette boîte d'allumettes, elle est quand même particulière. Allumettes de sûreté. Ouais. Avec des allumettes qui ne sont pas de longueur égale.
Les boîtes sont différentes, oui. C'était fait, oui, on se demande, c'était très artisanal. Hein. Oui. Et ça m'étonne, oui, c'est vrai qu'après, j'ai retrouvé ça en rangeant mon atelier pour la journée porte ouverte. Donc j'ai trouvé une dizaine de boîtes d'allumettes de sûreté rouges, comme ça. Je les ai mises à côté parce que quand j'ai trouvé ça, bien sûr, je me suis mis à les regarder. Mm-hmm. Donc j'ai mis les unes à côté des autres, je me suis aperçu qu'elles n'ont pas la même taille.
Elle date de quelle année? Année 50?
Ah oui, ah, par là, oui. Années 50. Malheureusement, il n'y a plus d'allumettes dedans. Mais bon, c'était... Ouais, parce qu'elle serait encore en état de fonctionner, hein, les allumettes. C'est intéressant aussi.
C'était, voilà, les boîtes, moi je laissais entendre que c'était les allumettes de longueur. Les allumettes qui étaient longueur inégale, ce sont bien les boîtes.
Où trouve-t-on ça? On le trouve de partout, il suffit de regarder.
Il faut avoir l'œil. Ça, c'est l'œil du chineur.
C'est comme quand.
Collector.
Quand l'œil qui écoute, non? C'est quoi?
Voilà,
c'est
l'œil du collecteur qui est attentif et qui porte un regard esthétique. C'est ça l'esthétique et c'est ça le sens artistique. C'est de pouvoir porter sur n'importe quelle réalité la plus triviale un regard esthétique.
Ouais,
et de trouver, même dans une forme de crasse, de laideur, quelque chose qui va pouvoir intervenir.
C'est intéressant, tu parles de collecteur, il me semble que justement tout à l'heure, vous, hors antenne, désigniez Jean Imhoff, non pas comme un collectionneur, mais plutôt un accumulateur. Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt le terme collecteur?
Collecteur, ça va très bien aussi, voilà. C'est pas collectionneur, collecteur,
c'est ça.
Et c'est intéressant.
Et c'est pas d'abord
la collecte, on va faire le tri. Ouais. Moi, je fais le tri sur place.
Accumuler, ça peut être péjoratif.
Mais des fois, après, on fait d'abord la collecte. On collecte et après on sélectionne un petit peu.
Et on peut laisser dormir des objets.
Mais la collecte,
des
c'est
objets.
Très bien. Je vous remercie d'avoir trouvé ce terme, qui me convient aussi. Je peux être un collecteur, vous voyez aussi. Collecteur, accumulateur.
Qui n'est pas collectionneur non plus.
Ah non, justement, c'est tout à fait différent, collectionneur. Oui, tout à fait, oui.
Est-ce que nous ne sommes pas déjà en train d'aborder une sorte de deuxième partie d'émission dans laquelle nous abordons davantage le travail ou des choses qui sont plus précises? Ce que je veux dire, c'est est-ce que nous pourrions peut-être maintenant écouter un autre titre, une autre
apporté par
Jean Imhoff. Alors j'ai sous les yeux 4 CD. Jean, que pouvons-nous écouter? Il y a du Cesaria Evora, il y a également Philippe Glass, il y a aussi Michel Petrucciani et Daniel Mille. Après la pluie.
Eh ben,
moi je ne sais pas.
Que comme Petrucciani, ça peut.
Petrucciani,
des bonnes choses.
Ouais. Bah, très bien, avec Petrucciani. Toi, Gérald, tu étais venu avec des choses aussi?
Oui, cas où, mais bon.
Au cas où, hein, mais c'est Jean est bienvenu muni. Comme j'en fais toujours la demande à nos invités de venir avec de la musique, ce qui permet de faire des questions, ce qui permet de relancer un peu. Donc on va écouter Michel Petrucciani. Vous avez fait une sélection. Qu'est-ce que je vois?
C'est
Charlie Brown.
Voilà.
Bon, très bien. Vous le commentez tout de suite, après, peut-être?
Oh, je ne vais pas faire de commentaire particulier, moi, sur la...
On pourra parler de vos rapports avec la musique. Je suis sûr que vous payez en musique. Pas toujours.
Pas spécialement. Non.
Ah, ça c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de peintres qui peignent en musique.
C'est souvent ce qu'on dit, je trouve que ça me parasite un peu.
Bon, bah, écoutons Michel Petrucciani, et puis nous relancerons ensuite Jean Imhoff, toujours dans l'émission Spectaculaire, et toujours sur Radio Canut.
tout.
Bon, y a eh bien, ce Charlie Brown, ça battait à la batterie. Alors, donc, nous avons toujours en notre compagnie docteur Jean Imhoff. On relance donc exposition demain, enfin exposition, atelier ouvert demain, atelier de, non pas de médecine généraliste, mais de peinture générale, atelier donc ouvert de 16h jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'invités au 20 rue Richand, c'est sur le plateau de la Croix-Rousse. Pour voir, eh bien, l'atelier certes, mais peut-être voir aussi quelques œuvres, quelques tableaux.
Bien sûr, et ça fait partie du travail, hein, c'est le résultat, donc c'est important de voir les œuvres. J'ai essayé de varier un petit peu, de mettre, parce que la dernière période, c'est une période bleue, c'est pas ce que j'ai toujours fait, hein. J'ai mis quelques tableaux anciens, en sachant qu'il y a toujours une difficulté dans l'exposition, parce que le côtoiement de peintures un peu différentes et parfois est difficile. Je trouve que quand on a une harmonie de période, il y a une harmonie d'inspiration et ça passe mieux. Mais dans l'atelier, on peut se permettre peut-être de montrer des choses anciennes, de montrer un peu un trajet.
Si on voulait résumer, on est sur le site, là on a navigué pendant le beau morceau de musique. Et c'est vrai qu'il y a des périodes différentes. Il y a une période un peu plus ancienne, caractérisée quand même par des éléments encore figuratifs. Des espaces très vastes, des restes de perspectives, des figures lointaines, des silhouettes de villes, villages. Un côté très sombre, je trouve, dans la palette, des palettes ocre. Plutôt la valeur dans toutes sortes d'ocre, de terre, etc. Assez sombre, je trouve, assez tourmenté même. Des compositions très déséquilibrées. Et puis là, ce que j'ai sous les yeux maintenant, des tableaux plus récents, on passe à des couleurs beaucoup plus vives. Des jaunes... des jaunes d'or, des jaunes citron, même des bleus outre-mer, des bleus très très purs. Alors pourquoi ce changement? Peut-être qu'il y a des changements d'inspiration, de vie. Et là, c'est vrai qu'on perd la figuration aussi. On peut plus se raccrocher à quelques éléments figuratifs.
Moi, je suis pas capable de dire. Je pense que peut-être que dans ma vie, il y a eu des changements qui font que c'est la traduction de ce qui s'est passé dans ma vie. Donc c'était peut-être sombre avant, puis ça s'est éclairci, c'est devenu jaune. Maintenant, c'est bleu. Voilà. Mais je pense que c'est, j'en plaisantais, mais je pense que c'est une réalité. On peint. On a des critères de couleur avec le sombre. On n'a jamais dit que Soulages c'était sombre. On dit c'est noir et puis c'est même ultra noir. Il y a toutes sortes de qualificatifs pour parler de son noir, mais on n'a jamais dit que c'était lugubre ou triste ou sombre.
Alors chez vous, au début, j'ai trouvé qu'il y avait une dimension un peu dramatique, un peu même romantique, un peu angoissante, presque. Un sentiment de vide, d'écrasement.
Je pense que si ça transparaît, c'est que ça existe. Parce que ce qu'on met dans la peinture, c'est son état d'âme. Je pense que c'est une projection de notre vécu, de notre vécu ancien, qui est réactualisé par ce qu'on vit, etc. On a la capacité de le projeter. Comme je dis souvent, on n'a pas des mots, donc on a de la peinture. Et après, c'est difficile de revenir aux mots une fois qu'on a exprimé quelque chose par de la peinture. Vous comprenez? C'est pour ça que je suis un peu réticent pour expliquer.
Ouais, j'ai expliqué.
Non, j'ai mis des couleurs qui veulent dire ce qu'elles veulent dire. Elles sont là. Après mettre des mots, c'est plus difficile. Mais en fait, je le fais quand même parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose, que ça signifie que les couleurs, elles ont bien une signification.
Une signification très ouverte que chacun va pouvoir projeter. Il y a un des frères Goncourt qui disait que quel est l'objet qui avait entendu le plus de conneries dans sa vie, c'est un tableau de musée. C'est vrai. Mais en même temps, ça sert à... ça existe parce que ça dépasse la parole, c'est un autre langage, mais ça sert aussi de support de communication, d'échange, de partage d'émotions. Autrement, ce serait même pas la peine de les montrer.
Exactement. C'est mon idée. C'est tout à fait ça. Et d'abord, c'est indispensable. Le partage d'émotions, c'est justement ce qui nous permet de vivre, de survivre peut-être, de montrer notre émotion qui va être recueillie par des gens qui vont la comprendre et qui vont nous permettre d'échanger là-dessus. C'est tout à fait, c'est très important. Moi, la peinture, c'est quelque chose, c'est une communication. Et sans communication, ce serait mortifère.
Et je sais ce que ça donne, les pulsions mortifères.
Tout tout à fait, oui.
Où vous êtes venu, on ne l'a pas clairement dit, je crois, vous êtes venu à la peinture, enfin du moins, le terme que j'ai, c'est autodidacte, c'est-à-dire vous êtes formé vous-même, il n'y a pas d'école de beaux-arts ou de grands courants, voilà, où, enfin, vous n'avez pas été dans une école, ou enfin, école à la fois courant et puis non plus des études artistiques. C'était dans un autre domaine, hein, je crois, vos études.
Ben voilà, tout à fait. Ouais. Comme souvent, on m'a demandé, ben, j'ai pas pu faire des études de médecine et puis des études d'art. Mais je regrette pas parce que je préfère être autodidacte parce que je me sens plus de liberté, hein, pas dire. C'est pas parce que, mais je regrette pas du tout.
Elle se voit votre liberté dans votre peinture, parce que ça peut nous faire penser à plein de choses, et ça reste Jean Imhoff.
Je pense, c'est ce que vous dites, c'est mon idée aussi.
Et on pense pas du tout quelque chose, on pense à Jean Imhoff, et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs.
C'est vrai que ça permet la spontanéité, pas pris dans un étau de connaissances dont on n'arrive pas à sortir. Hein. C'est vrai que les peintres qui sont d'une école, ils sont enfermés. Bon, on voit, c'est l'école d'un tel. Hein, et c'est tous les tableaux se ressemblent. Hein. Donc c'est ça le plaisir aussi, c'est cette liberté, hein, c'est-à-dire d'obtenir des.
Ouais. Vous évoquiez tout à l'heure, là, je pense à deux choses. Vous évoquiez tout à l'heure avant. Avant, j'étais, enfin, je sais pas si vous avez carrément employé ce terme, mais avant, j'étais plus sale, enfin, du moins sur mes tenues. Dans la vidéo, effectivement, on vous voit dans un bleu de travail qui n'est plus beaucoup bleu, voilà, qui a ramassé beaucoup de couleurs. Ouais. Donc, vous-même, vous disiez ce avant, c'est un peu ce à quoi Gérald a peut-être essayé de ce vers quoi il a essayé de vous emmener. Il y a un avant et un après, non? Enfin, il y a quelque chose, vous-même, quand vous disiez tout à l'heure ce avant, c'est vous le situez à avant quoi?
Ah bah, il y a plusieurs avant et plusieurs après. Il n'y en a pas qu'un. Non, parce que moi, je dirais l'avant, bah, c'est-à-dire qu'il y a eu ma période de médecin, où c'était aseptisé, hein. Je ne pouvais pas imaginer que ce n'était pas une blouse de médecin. Donc, je pense que j'étais frustré. J'avais besoin, c'était un grand plaisir de me salir. Hein, d'avoir les mains sales, de pouvoir avoir les ongles.
Moi, j'ai toujours un médecin chirurgien, hein, il faut préciser.
Oui, attention.
D'avoir cette possibilité de s'abîmer les mains, d'avoir les mains abîmées, tout ça, mais c'est super.
Moi, j'ai toujours
admiré. Moi, je voyais les mains des agriculteurs, les mains des travailleurs manuels, comme ça me faisait envie. Ah ouais. Maçon avec ses mains comme ça, bon, peut-être que le type il aurait préféré avoir d'autres mains, mais quand je regardais ces mains-là, ça me faisait plaisir. Et quand j'ai pu arrêter la médecine et faire de la peinture, ben, j'ai travaillé comme ça. Il y en avait plein les mains, il fallait que j'ai les mains pleines de peinture, le polo tout plein de peinture, dans les grandes dimensions, comme je dis toujours. Dès que j'ai pu peindre dans un atelier, j'étais pas loin, là, je suis allé chez le marchand de tableaux, j'ai dit, vous me donnez qu'est-ce qu'il y a de plus
grand.
Deux mètres,
à l'américaine.
Grand, voilà.
Allez, du Guernica, voilà. Tapisserie de Bayeux, 70 mètres.
Voilà.
Non, peut-être pas.
Non, mais les grands, grands formats et la couleur.
Un désir de se mettre carrément dans le bain, de la peinture, voilà. Dans sa matière et dans son espace.
Voilà.
Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'espace dans vos tableaux, finalement.
Ouais, peut-être, oui.
Ah, bah, je trouve, on les regarde.
Ouais.
Et il y a une dimension, vous êtes raccroché à une forme de paysage, je trouve, quand même. C'est ce paysage sans être du paysage. Des paysages intérieurs, certes.
Ouais, peut-être.
Mais du paysage.
Ouais.
Parce qu'il y a un sentiment d'espace et de décomposition qui sont jamais les mêmes.
Il y a une structuration, vous avez raison.
Ah oui, c'est très composé.
C'est structuré.
Et puis, il y a des choses très fines, très petites et des choses très larges. Ça peut être peint comme disait Bacon, il faut commencer un tableau avec un balai et le finir avec une épingle. Il y a ça dans votre travail aussi, je trouve.
Mais parfois, on fait le contraire. On commence avec une épingle, on finit avec un balai.
Aussi.
Y a pas
on passe de l'un à l'autre en cours de réalisation.
Ouais, non, mais on peut commencer petit et ça s'agrandit. C'est ça qui est intéressant dans la peinture, c'est que il n'y a pas de mode, on ne sait pas comment on commence quand on dit comment. Vous avez déjà une idée quand vous allez peindre. J'ai pas du tout d'idée. On commence par faire des gribouillons, hein, comme
des ébauches. On se laisse aller.
Ouais, on fait des traits comme ça. Bon, enfin, on se laisse aller. On se laisse aller tout le temps.
De manière automatique, on va dire. De manière automatique.
Quand ça se passe bien, on se laisse aller tout le temps.
Donc attention, tu vois, Gérald, c'est pas forcément, pas vraiment figuratif. Hein. Si on se laisse aller, c'est donc pas un portrait.
Ouais, mais
il y a la dimension automatique, un peu pulsionnelle.
C'est un laisser aller contrôlé. C'est ça qui est compliqué.
Et oui. Ça s'apprend. C'est un art.
Ouais, c'est ça, ouais, qui est difficile, ouais, d'être libre. Comme je disais souvent dans la vidéo que vous évoquez, je me disais, il faut que tu sois libre, il faut pas. Donc, ma grosse préoccupation, c'était de penser à rien, d'arriver. Tu dis, il faut pas que tu penses. Alors moi, imaginez.
C'est dur,
pas,
hein.
C'est pas possible.
Encore un point commun avec Bacon, qui disait qu'avant de commencer un tableau, il fallait se. On croyait que la toile était vierge, hein, l'angoisse de l'écrivain de la page blanche, mais en fait, elle est bourrée de clichés. Il faut se vider la tête.
Voilà,
elle
voilà.
est bourrée de tout ça.
C'est pour ça
à enlever, à faire le ménage.
C'est pour cette raison que je suis content d'être autodidacte, parce que Picasso qui visitait une école, quand il voyait des dessins d'enfants, il leur dit, ben vous voyez, vous, ce que vous faites là, moi j'ai mis 40 ans ou 50 ans à apprendre à dessiner comme vous. C'est ça, c'est désapprendre. Quand on a appris, c'est désapprendre. Alors bon, on a déjà assez de choses à désapprendre. Moi j'ai eu la chance de ne pas avoir à désapprendre tout un savoir qui m'aurait été inculqué. Puis après, bon...
Il faut apprendre à désapprendre, c'est vrai.
Ouais,
pour
tous
ceux qui ont fait des écoles et qui veulent essayer d'avoir
en gardant encore des connaissances, c'est ça, c'est ce qui est très compliqué, c'est lâcher prise, ça, un peu.
Qu'il soit pas un poids, mais une force, et une force pour aller de l'avant, quoi.
Ouais.
Est-ce que je sais que vous aimez pas parler mettre des mots sur vos tableaux, mais j'aimerais.
Non, mais
vous
je pense
bien,
que...
vous voulez un petit exercice là. On a un tableau qui n'a pas de titre. J'ai remarqué, on a pigment liant acrylique 130x97. Il n'y a pas de titre, mais c'est peut-être un choix volontaire de ne pas mettre de titre, ça peut tout à fait se justifier.
Ouais.
Est-ce que vous pourriez rapidement vous livrer un petit exercice de jeunesse d'un tableau, de généalogie? Par exemple, vous parliez de Gribouillon, comment cette composition, très spatiale, hein, elle est très, très large, il y a des lignes, on est dans un paysage marin, mais on est au-delà, il y a autre chose.
Il y a une date, Gérald, pour ce tableau?
C'est les dernières périodes.
C'est 2014.
2014. Est-ce que vous pourriez raconter un peu, mettre des mots sur ce tableau, qui a une spatialité, des couleurs très très bleues, qui évoque plein de choses, mais en même temps, elle ne représente pas un paysage, mais elle peut nous faire voyager beaucoup. Et puis, on voyage dans votre peinture. C'est quand même ça qui est intéressant.
C'est essentiellement du bleu. Hein. Ça, c'est un tableau qui est particulier parce qu'il est sur bois.
Et on le mettra sur le site pour les auditeurs bientôt.
Sûr, oui. Voilà.
Moi, je n'ai pas sous les yeux. Moi, j'écoute.
C'est un tableau qui plaît beaucoup aux gens. Mais moi, vous avez pris un exemple qui est intéressant parce que c'est un tableau qui ne me satisfait pas complètement.
Ah.
Ça. Et ça, c'est l'exemple dont je vous parlais. C'est un tableau qui a été laborieux. Et je n'ai pas eu de coup de foudre pour ce tableau. Donc, j'ai des difficultés. Ça fait partie des tableaux que les gens aiment, mais dont je ne suis pas certain, moi, parce que, il ne ferait pas partie des tableaux que je mettrais, que je garderais, parce qu'il n'y a pas eu.
L'émotion.
L'émotion, le coup de foudre. Et parce que je l'ai travaillé. Bon, alors peut-être que c'est
vous
le travail.
Savez pourquoi?
Pourquoi
oui, il y a quelque chose qui vous plaît pas dedans, il y a quelque chose de précis.
Le coup de foudre, vous savez pas comment ça se produit, hein. Bon,
un truc, ou un geste.
Le coup de foudre, ça arrive comme ça, hein. Moi, je peins pendant des heures, des dizaines d'heures, et tout d'un coup, il y a un truc qui naît comme ça, ça s'articule, ça se met en place en quelques minutes, quand ça se met en place. Et à ce moment-là, je vois que ça apparaît, là, il y a comme une apparition, et à ce moment-là, je ressens. Et celui-là, je l'ai pas ressenti. Alors après, il y a des nuances de couleurs. Ce qui me convient pas, parce que maintenant j'ai évolué, c'est qu'on voit un horizon.
Ah.
Et maintenant,
c'était là où je voulais vous emmener.
Voilà. Et
il y a
l'horizon.
Trop de figuration encore dans ce tableau. C'est ça qui vous plaît pas.
Voilà.
Il est
c'est
trop
comme la tâche de
figuratif.
Soulage. Ça, voilà. C'est comme la tâche de Soulage. Ça me déplaît parce que il y a cet horizon qui est
voilà au milieu de la toile.
Ouais, alors avec comme vous l'avez
rectangulaire.
Dit, le ciel. On
y a
peut
du
voir
d'or là-dedans.
On peut voir de l'eau, du ciel. Enfin, des
on
trucs
peut
comme
projeter
ça.
Ces formes-là. On n'est pas obligé.
Voilà.
Mais il y a tellement de choses par ailleurs qui sont tellement peu figuratives. On peut même voir un phare, on pourrait voir plein de choses, des nuages, mais il y a aussi, ça dépasse cette dimension-là très figurative. On va aussi au-delà et on est libre de ne pas voir ça.
Alors ce que j'aime dans ce tableau, par contre, c'est tout le grattage que j'ai fait ici qu'on voit pas sur le site ou parce que il est, vous avez un tableau réduit puisqu'il fait 130 de large. Donc toutes ces parties-là, vous avez toute une série de nuances de couleurs qui vont à l'infini. Et ce que j'aime, c'est que souvent, je dis aux patients, c'est une formation professionnelle, parce que souvent...
Mais bon, il faut être patient pour regarder la peinture, je suis assez d'accord.
Aux amateurs, aux spectateurs...
Il faut se noyer dans la peinture.
Aux passants,
donc,
comme on attend, salle d'attente, son médecin.
Voilà. Donc, les gens, je leur dis souvent... il faut regarder de près un tableau, on passe pas comme ça. Moi, quand je vois les gens qui passent devant un tableau qui restent, ils envoient, ils passent devant comme s'ils marchaient devant. Mais
c'est
moi,
ça, la consommation
ça
de masse.
C'est pas possible.
Un tableau, ça s'habite. C'est un organisme. Ben, si on en croit Paul Klee. Et puis, ça a des lois propres qu'il faut pénétrer. Ça demande du temps. Pas forcément de la connaissance ou de la culture.
Non,
mais ça demande au moins le temps de la contemplation sans être.
Tout à fait. Mais ça c'est quelque chose d'important. Vous dites, ça demande pas de la culture. Il faut rassurer les gens pour leur dire qu'ils sont aptes. Parce que souvent, ils disent, mais je sais pas comment il faut faire pour regarder.
Bon, on n'a pas les clés, on n'a pas la culture historique de l'histoire de l'art.
Et donc, les gens font des complexes un peu. C'est vrai, parce que si vous voulez, on va revenir à mon ancien métier, dont je ne parle pas beaucoup, mais je vais en reparler. C'est comme le langage médical. Quand quelqu'un vient avec des symptômes, on ne lui demande pas qu'il parle comme un dictionnaire. On demande qu'il parle avec ses émotions et ce qu'il ressent. Hein, dans le domaine psychologique, c'est pas de dire je suis angoissé, c'est de dire voilà, ça me sert ici, vous voyez, ou quelqu'un qui est triste, il n'y a même pas besoin de parler, on le voit qu'il est triste.
Pour établir un diagnostic.
Elle va dire de façon complètement aseptisée, je suis triste, que ça se voit pas. Hein. Donc là, c'est pareil, je sais plus où je voulais, où j'en
ai. Par rapport aux
vous dites aux gens.
Et aux contemplateurs.
Vous dites aux gens.
Voilà, contemplateurs. Donc, un tableau, ça se regarde pendant. Pas autant que je le regarde moi, parce que moi, je regarde pendant des heures, alors bien sûr.
Les gens qui l'achètent le regardent toute leur vie, hein, le tableau qu'ils ont
élu. Je sais pas s'ils le regarderont comme ils voient, enfin, a priori, oui. C'est intéressant parce que ceux qui ont des tableaux, parfois, ils me disent, mais ton tableau, là, tu sais, j'ai découvert un truc. Ils disent, t'es où, à quel endroit? Mais je dis, je le sais, bien sûr. Ils ont l'impression que j'ai oublié, moi. Et la dernière fois, j'ai fait une exposition avec une amie. Elle s'est amusée à faire des petites photos de Judy, tu peux montrer tous les petits détails
des
avec
détails,
un petit détail et truc. Elle me dit c'est lequel? Je lui dis c'est celui-là. Ah ben oui, non mais même un détail infime.
Elle fait un quiz quoi,
un blind test
pour voir si l'artiste connaissait bien son propre travail.
Ben ça rejoint les anfractuosités des murs. C'est un plaisir regarder les anfractuosités des murs. C'est plus pratique d'avoir un tableau chez soi parce que vous ne faites pas remarquer. Quand vous regardez votre tableau au mur, que si vous êtes arrêté dans la rue et vous commencez à contempler des anfractuosités, hein, c'est pas.
J'espère, auditeur, que vous le constatez bien, que c'est parfait d'entendre Jean Imhoff parler de sa peinture, mais le mieux, c'est quand même de le rencontrer, et c'est quand même d'aller voir ses toiles, parce qu'à l'instant, il disait qu'on n'apercevait pas le grattage, on n'apercevait pas le détail. Eh bien. C'est formidable. Demain, jeudi 19 novembre, de 16h à quoi 20h, 22h, jusqu'à ce que la fatigue s'empare de tous ceux qui viendront.
L'ivresse picturale.
Voilà. Donc, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, eh bien, l'atelier de Jean Imhoff est ouvert, 20 rue Richamps, sur le plateau de la Croix-Rousse. Ce que je propose de faire, c'est une courte pause. On va écouter, vous parler de coup de foudre tout à l'heure. Est-ce que ça pourrait être un rapport? On va écouter une voge d'amour, une voix d'amour. Écoutons Cesaria Evora, Isolade, extrait de cet album. Donc, coup de foudre. Non, c'est pas coup de foudre. Voix d'amour. Et puis, nous continuerons sur peut-être des choses beaucoup plus précises. Qu'est-ce qu'on pourra voir demain quand on poussera la porte de votre atelier? Quoique non, elle sera déjà ouverte. Il fait tellement bon ces jours-ci que la porte sera ouverte. Qu'est-ce qu'on verra? On verra vous-même. Et puis des toiles, quelles toiles verrons-nous?
Comme son nom l'indique, c'est atelier porte ouverte.
Il y aura peut-être même des petits formats.
Atelier porte ouverte. Eh bien, écoutons Cesaria Evora. En plus, on reprendra après. Il y a une petite raison pour laquelle je souhaitais écouter Cesaria Evora. C'est un excellent choix, Jean Imhoff. Vous donnerez votre raison peut-être, puis moi, je donnerai la mienne aussi. Nous continuons. Hola, encore un quart d'heure sur dans Spectaculaire sur Radio Canu. Noite e luz de dia.
vive fichada, isolada num gaiola cor de prata. Ela tem pra companhia, noite e luz de dia. Ela é fixe de sofrimento. Em flor que pão voar até que ele mulatinha vá tirar de cedo vá fazer minha rainha sem liberdade. Já pedi no Senhor, venda-moas em flor, que pão voar até que ele mulatinho.
Il n'y a pas d'applaudissements parce que ce n'est pas en direct, César Évora. Elle ne peut pas, puisque César Évora est quand même décédé il y a quelques années. Néanmoins, moi je souhaitais écouter ça, faire écouter ce titre, parce que César Évora a joué au Bataclan, il a de cela, je crois, une trentaine d'années. Et donc voilà, on est quand même là, encore dans, il n'y a pas une semaine qui s'est écoulée depuis ces tragiques événements de vendredi dernier, vendredi du 13 novembre. Donc voilà, je souhaitais faire un tout petit retour. Gérald, toi, tu as un peu de presse avec toi? C'est ce qu'on vient de se dire avec Jean. Les mots bloquent un peu, c'est ça, là, pour le coup. C'était plus facile de parler de peinture.
C'est dit tellement
que
de choses.
Tellement complexe. Il s'en est beaucoup dit aussi.
Même les experts de tout poil, les politologues, le monde entier sous le choc, et on peut dire beaucoup de bêtises. Dès qu'on sort de la sidération, de l'émotion pure, on essaye de mettre des mots, des grilles analytiques là-dessus, tout le monde s'y essaye, tout le monde y va de son point de vue. bon, c'est difficile, c'est délicat. Bon, il faut essayer quand même de déjà de penser quoi. Penser la chose, penser l'événement, sortir de l'émotion brute et voilà. C'est ça qui est difficile en fait. Hein. Résister à la terreur aussi, comme le titre numéro 1. On peut s'intéresser au virage sécuritaire de Hollande que titre Le Monde. On peut s'intéresser dans la fabrique djihadiste en Belgique de Libération. Y a-t-il eu des failles dans la surveillance, etc. On peut écouter des podcasts sur la radio. Il y a eu des spéciales tout le dimanche sur notre grande radio concurrente France Culture. Bref. Voilà, hein, il faut. Mais même quand on s'abreuve de tous ces médias, on peut aussi passer des heures devant BFM à constater que le journalisme est avant tout un terrain d'action spectaculaire avec des journalistes haletants.
Attention à l'usage du mot spectaculaire.
Ouais, justement, spectaculaire. Oui. Bon voilà, on assiste à des spectacles parfois justement.
Tu l'as dit, c'est difficile,
affreux,
compliqué,
récupération de tout genre, comme ouais. D'habitude, comme après les attentats de janvier, il y avait toujours les mêmes phénomènes. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se sent un peu attaqué, même complètement attaqué au fond de son être, dans son cœur, et que ça concerne tout le monde. Et on a vu que dans l'éducation nationale aussi, tous les gens se sentent touchés, quelles que soient les origines des gens, la population, les âges. C'est un vrai choc national.
Donc, si les mots sont difficiles, on ne va pas en demander à Jean. Peut-être seulement une question. Pourquoi Cesare Évora?
C'est-à-dire, je me sens concerné quand même par tout ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai que avec le recul, on arrive à un peu articuler des mots, mais c'est vrai que ce qui peut me caractériser, c'est l'émotion. Donc, moi, ça me déborde vite et ça m'empêche de verbaliser des choses. Donc, moi, ma première réaction comme peintre, ça a été de trouver que j'étais complètement dérisoire dans mon activité. On se demande ce qu'on est en train de faire. On est en train de peindre et ça, c'est... On se demande si on va continuer. On dit, ça rime à quoi, peindre ? Et puis, moi, ce que je dis souvent, mon ancien métier aussi de médecin, ça me traumatise parce que nous, comme médecins, on essaye de soigner des gens et on met... des mois, des années à essayer de rétablir une santé, à remettre des gens d'aplomb qui ont été blessés, accidentés, et qu'on voit que on puisse s'exterminer comme ça en quelques secondes. Moi, ça fait encore montrer cette espèce de fracture entre ce qu'on fait et ce qui peut être fait ailleurs. Donc, ça me démolit complètement. Et c'est comme voilà, c'est ce que je voulais dire, hein, que.
Et alors, cette Cesare Évora, vous sentez-vous vous-même isolé? C'était Isolade que nous avons écouté.
J'ai pas réalisé que le titre était ça, mais ça, moi, ça me procure une émotion majeure. Hein. C'est magnifique.
Il y a une voix, il y a un truc. D'ailleurs, je crois son cours, le chant.
Et puis, c'était un personnage très intéressant. Hein, ouais. C'était une dame. Ça m'a beaucoup fait de peine quand elle est morte. Hein, mais elle n'était pas très âgée. Hein, mais elle était assez usée, hein.
Par l'alcool notamment.
Je lançais cette question tout à l'heure, Jean Imhoff, demain, donc si on est au 20 rue Richand et qu'on pousse la porte, non la porte
vous
sera
avez
ouverte.
Pas besoin de la pousser, elle sera ouverte.
Il fait tellement beau.
Et je vous attends avec plaisir, alors, j'espère que
je serai un peu pris moi demain dans l'après-midi, 16h-22h, il y a l'Assemblée Générale de Radio Canus, ouais. Ça va être difficile. Mais bon, qu'est-ce qu'on pourra voir alors? Vous serez encore en train de passer un coup de balai pour Angers ou ce sera terminé?
Ce sera tout propre. Mais on va laisser quand même un peu l'atelier tel qu'il est utilisé, hein. C'est pas un lieu justement, si on fait quelque chose dans l'atelier, c'est pour que ce soit pas dans une galerie aseptisée où les tableaux sont... On va montrer les tableaux.
Et de l'authentique.
Et puisque j'aimerais, c'est à la fois parler des tableaux, parce que c'est important, hein, comme on disait tout à l'heure, c'est une communication, donc on va recueillir les impressions, l'émotion de ceux qui vont regarder, et puis expliquer comment on fait, parce que c'est souvent une curiosité, les gens... se demande comment on fait pour peindre, hein, avec quoi, comment. Donc en voyant, je pense qu'ils vont peut-être visualiser et se rendre compte de ce que c'est. Parce que quand on dit c'est pas compliqué, on prend un pinceau, un couteau, et donc on va peut-être montrer.
On parlait de pigments en début d'émission, non? Oui. Il y a quand même du travail, il y a une préparation, enfin du moins il faut une...
Oui, mais ça me semble pas majeur, ouais. Mais c'est important pour les gens, ouais, qui voient ça.
Produire
ouais.
Sa
c'est l'intérêt de voir un atelier,
voilà,
de voir d'où ça vient, d'où ça sort.
Voilà, ouais, de voir comment le pigment se présente, hein, il est en poudre, on le mélange. Et puis je pense que je vais mettre une toile et puis on va peut-être faire un tableau collectif. C'était une idée que j'avais comme ça. Enfin, c'est pas moi qui ai eu l'idée, il faut être honnête, on m'a donné l'idée.
Une bataille de peinture, un truc à la Pollock, vous allez jeter de la peinture du
tripping. Non, 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 on va pas forcément jeter, non, mais on va
Elle sera au sol ou au mur?
C'est-à-dire collectif. Les gens vont le faire les uns à la suite des autres. Ils ne vont pas tous prendre des pinceaux en même temps.
C'est une forme d'exutoire. Il y a une forme d'exutoire symbolique après les événements.
Ben, c'est, on peut, quand j'en parlais, ouais, je pensais à ça éventuellement. Ouais, peut-être, oui, une communion sur une toile, je ne sais pas. Ouais, mais faire une peinture collective, c'est intéressant ouais, de faire. Mais on va faire chacun son tour. Hein, on va pas prendre chacun un pinceau et faire une toile.
Et il y aura quelques tableaux, donc vous avez indiqué également qu'ils seront éventuellement.
Ah ben oui, je vais mettre
pas de vernis.
C'était quoi ce terme, Gérald? Ils seront acquérables, acquisissables.
Non, acquérables, non.
Acquéribles. Est-ce qu'on pourra.
Susceptible d'être acquis.
Ah voilà, très bien. On pourra. Parce que c'est une sorte de pré-exposition, enfin pré-exposition, puisque en décembre, vous serez du côté de Saint-Alban.
Oui, Saint-Alban, c'est près de Cerdon. Et là, on fait une exposition collective à ce qui s'appelle la Combe du Lynx. Donc, on est une quinzaine. Et là, je vais mettre 8 à 10 tableaux. Ouais.
Et donc, demain, c'est une sorte de.
C'est autre chose.
Oui, c'est une autre chose. Mais
c'est-à-dire. Oui, c'est.
Il y a la perspective.
Oui, voilà, c'est la perspective. Porte ouverte, c'est quelque chose de différent parce que je les accueille chez moi. Et c'est un peu l'intimité du peintre, si vous voulez. Donc, je réalisais que c'était peut-être un pas que j'avais fait, laisser pénétrer les gens. Parce qu'on m'a demandé, est-ce que vous allez peindre devant les gens? Non, je vais pas peindre. Mais déjà, ils vont pouvoir entrer dans l'atelier.
Dans la matinée, demain, vous allez peindre? Non? Demain, c'est plutôt préparation.
Ah oui, je vais préparer. Ouais. C'est malheureusement, c'est pas malheureusement, mais c'est vrai que j'ai difficulté à ne pas peindre. Mais c'est bien aussi les périodes où on accumule le matériel émotionnel qui va être après pas forcément peindre.
Le muscle se tend,
l'arc
se bande. Gérald, est-ce que tu fais un signe pour indiquer, mon Dieu, qu'en est-il de Pascal et du blues des canuts? Il n'est pas encore
c'est pas
là.
Grave,
il
n'était
pas
me
là la semaine dernière, je crois, ni il y a deux semaines. On va commencer par s'inquiéter. On déborde alors?
Va me permettre de faire deux petites annonces avant de dire au revoir à Jean.
Et puis on va écouter Daniel Mille un petit peu. On écoutera
peut-être un peu de musique. Ouais. Je voulais rappeler simplement aux auditeurs qu'on a passé la semaine dernière des morceaux de musique de Paul Cornet.
Il y a deux semaines, c'était relâche la semaine dernière.
Ah oui, c'est vrai, il y a deux semaines. Donc, pianiste et compositrice qui va se produire vendredi soir. Donc à l'INSA, renseignez-vous, question précédente, vous trouverez sur le site de Spectaculaire, donc Paul Cornet, à l'INSA au piano, vendredi soir, peut-être 20h d'ailleurs. Et par ailleurs, il se trouve que j'ai la réponse à l'instant, je viens de la voir, il y a aussi une lecture poétique et performative avec texte et instruments, le PTIX, ce samedi 21 à 18h à la bibliothèque du 2e, avec Jules Desgouttes, musicien, et collègue d'un collectif qui s'appelle ABIABO. Le texte s'appelle « Entre deux murs », extrait d'une cosmogonie en cours. Donc voilà, c'est un travail qui vise à faire résister, qui travaille sur la résistance du langage à l'épreuve de la poésie. Donc ça me paraît intéressant. Donc cette lecture aura lieu dans le cadre d'un festival qui s'appelle « Tortatong ». Il y a des chances que M. Pierre Gonzalez soit l'invité du 9 décembre.
Ah, mais c'est très bien.
Dans 15 jours.
Je souhaitais faire un petit point également. La semaine prochaine, musique brésilienne.
Avec le duo Aurélie Verioca. Et le 9 décembre, donc Pierre Gonzalez, dont je viens d'avoir la réponse à l'instant même.
Et puis peut-être encore d'autres choses à venir.
Il viendra nous parler de ce festival, mais précipitez-vous donc. Samedi 21 novembre à 18h, c'est gratuit. Bibliothèque municipale de Lyon, 13 rue de Condé, dans le 2e, bibliothèque du 2e. Avec Créer, c'est résister, Tortatong. Une lecture poétique, expérimentale. Il y aura aussi Laurent Cauvet, responsable des éditions, très bien, très bonnes éditions, Aldante, qui défend l'idée que la poésie peut être un espace de résistance quand elle lutte contre les formes langagières qui verrouillent la pensée et la façonnent en prêt-à-porter, en échantillonnage d'opinions et de clichés. Passionnant, puisque le langage doit être révolutionnaire et c'est par le langage qu'on peut résister aussi.
On pourrait accumuler les annonces, il y a beaucoup de choses. Il y a du théâtre va commencer cette semaine, Bettencourt Boulevard, une sacrée pièce qui est donnée à partir de demain, jeudi 19 novembre, jusqu'à la fin du mois de décembre. Je les ai comptées, 26 représentations de Bettencourt Boulevard au Théâtre National Populaire, au TNP de Villeurbanne. Ça commence demain, jeudi 19. Il est question que nous y allions, toi, moi, on verra, puis un compte-rendu sera mis en ligne, peut-être par Goulven encore. Et puis je comptais aussi
une longue tartine passionnante.
Il y a également d'autres concerts à venir, il y a d'autres choses. Ça a repris, hein. Il y a eu relâche ces jours derniers. L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, hein, programmé au théâtre de la Croix-Rousse, n'a été donné qu'une unique représentation le vendredi 13 novembre. Les suivantes ont été annulées. Le ballet également, l'Arlésienne et Carmen de Roland Petit a aussi été annulé. Enfin, beaucoup de choses ont été annulées, mais ça reprend. Ce soir, Avishai Cohen est à l'Auditorium. Il y a aussi un concert à venir dans deux semaines, un truc qui va faire du bruit. À l'opéra, ainsi par la Zarathustra de Strauss, avec également les Fearless Leaders, les quatre derniers leaders. Enfin voilà, différentes choses à venir. On pourra faire tout un tas d'annonces. Tu as également encore un article de presse à évoquer.
Bah, puisqu'on parle de la culture dans la région Rhône-Alpes lyonnaise.
Ce n'est pas le 1, c'est ça?
Non, voilà.
Ça y ressemble.
La formule du 1, elle ressemble beaucoup, a été prise par le quatrième numéro de mytalk.fr, qui titre Vers une révolution culturelle. Alors il y a des choses intéressantes, hein. Ils prennent la parole, donc philosophes, historiens, artistes, politiques, écrivains, psychiatres, des articles d'Olivier Py, Raphaël Antoven, Jacques Lang, Maggie Marin, Adèle Van Rett,
et Tossé Lestin,
Patrick Boucheron, Boris Cyrulnik, Guy Walter,
avec le roi Lire,
Jean Smenel, Marc Lambron, Emeline Gersol, Benjamin Villemagne, Xavier Lardoux,
bon, allez, ça fait
Arnaud Meunier de la Comédie de Saint-Étienne, qui dit des choses très intéressantes sur le statut de l'intermittence de spectacle. Il est à lire parce que, bon, on a envie de rager des fois on est d'accord avec certaines réflexions de tous ces cultureux qui vivent de la culture et qui nous font vivre de la culture, et ça donne beaucoup à réfléchir sur l'état de la culture actuelle et des états généraux de la culture, pourquoi pas, parce que en période de crise comme on est en train de vivre, ça peut être intéressant justement.
Bon, on laisse un dernier mot à Jean, non pas tout de suite puisqu'on diffuse. Allez, on va écouter quelques notes de Après la pluie, et puis ensuite on reprend la parole pour se dire au revoir, on enchaînera sur le générique, mais Jean, promis, on vous laisse encore dire deux trois choses
avant la musique. Oui, ben écoutez, je voulais surtout vous remercier de m'avoir accueilli.
On va vous dire au revoir. D'abord, on lance Daniel Mill, et puis après on se salue, et ce sera quand même le temps d'achever d'accord. l'émission, même si
je voulais vous remercier parce que vous m'avez fait revenir dans le temps à des souvenirs, et j'ai retrouvé le musée de, donc je vérifierai le nom,
le Bardo
ou le Prado, et c'est quelque chose que j'avais oublié. Ça m'a fait plaisir et ça m'a apporté une émotion.
On ne se quitte pas encore. Il est 15h05, écoutons Daniel Mill, Après la pluie, extrait de l'album Après la pluie, et puis après on enchaîne sur le générique, on se dira au revoir, mais le blues des Canuts, ça n'a pas l'air de vouloir commencer. Tant pis, on écoute encore Spectaculaire Prolongation, puis après il sera temps de dire au revoir à notre invité qui fait atelier porte ouverte demain. Allez, Gérald et Jean, il est quand même temps d'achever. 15h07, voilà, blues des Canuts, Pascal n'est pas là, mais de toute façon, les bandes continues vont prendre la place, et puis il y a aussi, est-ce qu'il y aura tout à l'heure Son Bâtard à 16h, possible, 17h, je ne sais plus. Est-ce qu'il y aura également le Méga Combi? Oui, Méga Combi, hein, tous les mercredis à 18h, Canu Info à 19h, voilà, tout un tas de programmes comme chaque semaine. Jean, on vous dit au revoir, on vous dit merci, on vous dit à demain peut-être,
ouais.
Disons, ben, oui, Gérald, tu seras toi, on verra.
J'hésite entre la l'Assemblée Générale de Radio Canu, un vernissage.
Porte ouverte.
Dans un atelier.
Porte ouverte à partir de 16h, c'est ça? À l'heure du goûter, quoi.
Voilà, voilà. 16h, il n'y a pas de... C'est pas fixe, hein.
Bon, c'est pas fixe.
À partir de 15h30.
20 rue Richand. Les renseignements seront à trouver sur le site. Je mettrai un numéro de téléphone, peut-être, ou enfin, d'un autre côté. Ouais, on n'a qu'à venir.
De toute façon, on vient. C'est pas la peine d'avertir.
Pas la peine de prévenir. Merci beaucoup, Jean, d'être passé.
Merci.
Et puis, moi qui vous remercie.
Gérald, on se voit mercredi prochain. Avec de la musique brésilienne. C'était super, voilà. César Yevora, ça faisait une introduction. Bonne fin de journée à tous, et puis à la semaine prochaine, et restez à l'écoute des programmes de Radio Canu.
Au revoir.
On écoutait à l'instant un long morceau de ce groupe suédois qui s'appelle Horizonte, et le morceau c'était Odyssée.